Bien nommer les choses doit être une préoccupation quotidienne des journalistes, car les médias ont un rôle social qui est aussi de mettre les mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, de nos sociétés. C'est pour cela que certaines rédactions rédigent des glossaires, des vade-mecum, dont leurs équipes éditoriales se servent quotidiennement pour utiliser les mots justes. Certains médias choisissent aussi de nommer des journalistes référents sur certaines questions transverses. C'est ainsi que le site d'information français Mediapart, qui disposait déjà d'une responsable éditoriale aux questions de genre, a nommé récemment en son sein une responsable éditoriale aux questions raciales. Elle se nomme Sabrina Cassa et je l'accueillerai tout à l'heure.
RFI.
Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Cette émission dure 20 minutes si vous l'écoutez à la radio, plus encore si vous êtes abonné à notre podcast. Les 5 et 6 octobre, l'AJAR, Association des journalistes antiracistes et racisés, organisait à Marseille son premier festival. Des tables rondes, des prises de parole et ateliers étaient organisés. L'objectif de cette organisation étant de lutter contre le racisme dans la profession et les entreprises de presse, mais aussi de se pencher sur les productions médiatiques, leurs biais et leurs travers. Justine Rodier, correspondante de RFI à Marseille, a recueilli pour nous quelques paroles de journalistes au cours de ce festival.
On va commencer, du coup, s'il y a des gens qui veulent venir s'asseoir, c'est parti.
Bienvenue, c'est notre premier festival antiraciste sur les médias. On est super contents de vous accueillir. Pour une si jeune association, c'est quand même un sacré exploit pour nous de réussir à faire cet événement ce week-end.
On a tenu à faire cette première édition ici à Marseille parce que les médias, ce n'est pas seulement Paris, mais c'est toute la France. Et de plus, Marseille étant une ville très, très cosmopolite, forcément le traitement médiatique de Marseille et des personnes racisées à Marseille peut également être très problématique. Donc pour nous, ça faisait complètement sens de venir ici pour la première édition.
Merci pour votre venue et amusez-vous bien.
Voilà, bon festival.
Je m'appelle Inès, je travaille à Libération et c'est des questions qui déjà m'intéressent en général et me concernent personnellement parce que je suis franco-marocaine. C'est des billes qui sont dans toute la société française donc il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas dans les rédactions, plus ou moins prégnantes. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur aucune rédaction mais de toute façon c'est pas une mauvaise chose de se poser des questions sur ce sujet et de toujours faire attention à ce qu'on produit en tant que contenu et de réinterroger les contenus qu'on produit en tant que média. Là, par exemple, j'utilise toujours le mot hexagonal et pas métropolitain. Et c'est vrai qu'il y a des changements de langage qui ont lieu dans les rédacs. C'est important, oui, d'écouter et d'essayer de comprendre pourquoi des usages changeraient. C'est comme de la formation continue, quoi. On peut pas dire, j'ai ma base de connaissances que j'ai depuis que je suis d'école de journalisme et elle va pas évoluer, ça n'a pas de sens.
Du coup, cet après-midi, vous avez 3 tables rondes. Une sur les territoires d'outre-mer et la blanchité dans leurs médias. Une sur l'anti-tsiganisme et une sur la presse marseillaise.
Ah, c'était impératif de créer l'association des journalistes antiracistes et racisés. D'ailleurs, quand on s'est créé il y a un an et demi, on a reçu, au tout début, on était 2, puis après on était 10, puis après on était 50, maintenant on est 200 quelques. Mais je me rappelle, hein, au tout début, les gens nous disaient « Enfin, super !» On n'est pas tout seul, parce qu'il y a plein de journalistes racisés qui sont très seuls en rédaction et qui doivent se prendre pas mal de remarques, supporter les articles plutôt racistes de leurs collègues et tout. Des exemples, j'en ai plein en tête. On parle tout le temps, en fait, des personnes racisées, de l'immigration, etc. Sans forcément se poser la question sur les mots qu'on utilise, les angles qu'on prend. Je parle de sport, par exemple, même si on n'est pas un journal très connu pour sa couverture sportive, mais pourquoi on animalise toujours les sportives femmes noires? On dit la gazelle, on dit la panthère. Quelle est la différence entre gens du voyage, tziganes, roms, gitans? Tout ça, ce n'est pas la même chose.
Donc bonjour, je suis Saloa Boujour, je suis journaliste multimédia bruxelloise. Si on vient nourrir les stéréotypes de l'imaginaire collectif qui pour la plupart ont cette origine raciste coloniale, comment on fait à ce moment-là pour vivre ensemble et pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes espaces? C'est impossible en fait. Mais le problème, c'est qu'on ressent une certaine lenteur en fait et des difficultés pour les rédactions à prendre un train qui est déjà en marche, parce qu'ils sont vraiment en retard en fait. On est en 2024, en Belgique, à Bruxelles notamment, on a plus de 184 nationalités différentes. Enfin, la société est tellement diverse. Donc non, les citoyens et les citoyennes ont droit, ils cotisent pour avoir des médias qui leur ressemblent, qui leur parlent et dans lesquels ils voient traiter des sujets qui les concernent.
L'atelier des médias.
Des paroles de journalistes recueillies début octobre par notre correspondante Justine Rodier à Marseille durant le festival de l'Association des journalistes antiracistes et racisés, l'AJAR. Comme je vous l'annonçais en introduction, je reçois en studio à RFI la nouvellement nommée responsable éditoriale aux questions raciales de Mediapart. Bonjour Sabrina Cassa.
Bonjour.
On a l'impression qu'il se passe quelque chose sur ces questions-là actuellement en France. Et ce festival, à votre avis, en est-il une des dates clés, un moment charnière peut-être ?
En effet, je pense qu'il se passe quelque chose en France pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des journalistes qui se mobilisent, comme l'AJAR. Et en effet, c'est une date importante. Et puis aussi à cause d'un contexte général qui est très inquiétant avec la montée du racisme dans tous les pays européens et notamment en France.
Donc vous avez senti l'urgence à Mediapart de créer ce poste, une urgence peut-être qui est née d'une double montée, si j'ai envie de dire, sans doute liée, celle du RN, du Rassemblement National, ex-Front National dans les urnes, et une autre montée, celle de pensée d'extrême droite, portée peut-être par certains médias.
Absolument, c'est vrai que le contexte est très angoissant. Et puis on voit cette marée monter. Mediapart a décidé de créer ce poste à la suite en fait d'une longue réflexion qui a démarré en 2018 chez nous. En fait, Sonia Roland était à une émission pour parler avec d'autres actrices du livre Noir n'est pas mon métier. Donc c'était ce livre coup de poing qui parlait des stéréotypes et des discriminations dont les femmes noires sont victimes dans le cinéma français, mais aussi le théâtre et la culture en général. Et à un moment dans la discussion, elle dit « mais ici aussi, en fait, il n'y a que des journalistes blancs ». Bon, elle était quand même interviewée par Rachida El Azouzi, mais c'est vrai qu'elle a pointé une chose qui était vraie, c'est-à-dire la composition de l'équipe du journal, qui était quand même d'une homogénéité ethno-raciale qui n'est pas représentative de la société.
Vous êtes pris une claque d'une certaine façon à ce moment-là. Tout
voilà, bien. Avec élégance, mais une belle claque. Ouais.
Et donc, vous avez entamé un processus.
Voilà, donc on a eu plusieurs débats avec toute l'équipe. Ce sont toujours un peu des discussions qui sont intenses. On a décidé à ce moment-là déjà d'ouvrir un processus via les alternants, en recrutant des alternants racisés, enfin en essayant vraiment de les inclure. Les choisit pas comme ça, mais en tout cas il y a la conscience qu'il faut rechercher ce genre de profil.
Des alternants pour nos auditeurs, ce sont des étudiants souvent et qui partagent leur temps entre le monde de l'entreprise et leurs études.
Voilà, et qui reste suffisamment longtemps, et donc on a le temps de les former, de les acclimater.
C'est sur un an ou deux ans, généralement, oui.
Voilà. Et il n'y avait pas de projet de recrutement à court terme, donc voilà, on pouvait faire que ça. Et puis ensuite, on a eu le confinement. On a eu beaucoup d'abonnés à ce moment-là, donc on a pu, juste après, recruter de nouveaux journalistes. Et c'est là qu'il y a plusieurs journalistes racisés qui ont intégré l'équipe. Et fin 2019, on a créé une commission diversité, diversité au pluriel. C'était pas une instance de pouvoir, mais en fait... On réunissait à la fois les RH, les journalistes, enfin un peu tous les pôles communication pour réfléchir, pour améliorer les process de recrutement et réfléchir à ces questions-là. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de publiciser les postes et qu'on a commencé à réfléchir sur les questions à proprement éditoriales.
Et donc, vous avez eu une démarche volontariste sur ces questions-là. Vous avez utilisé le terme de diversité. Et j'ai dit tout à l'heure en introduction que vous êtes journaliste responsable éditorial des questions raciales. Pourquoi avoir choisi d'utiliser le terme de questions raciales et pas question de diversité ?
Alors, comme je vous disais, on avait mis... c'était une commission de diversité, donc c'était aussi c'était sur les questions raciales, mais aussi de validisme, d'homophobie, d'agisme, en fait, c'était toutes les discriminations. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé seulement sur la question raciale, et c'est pour ça que le comité, maintenant, s'appelle anti-racisme. Quant au poste, donc il s'intitule responsable éditorial aux questions raciales parce que on considère que la race va bien au-delà en fait de la question ethnique. La question ethnique est liée aux identités. Ce sont des caractéristiques auxquelles les gens s'identifient et qui est liée à leur histoire, à leur langue, à toutes sortes de productions culturelles. La race, c'est quelque chose qui est imposé, qui est assigné aux autres et qui est dévalorisante. C'est-à-dire que c'est une assignation sociale ou symbolique qui vise en fait à positionner dans l'échelle sociale en fait des personnes. Donc ça raconte pas la même chose. Le racisme, ça passe par des actes violents, par des discriminations tangibles. La race, elle s'applique aussi d'une façon beaucoup plus diffuse dans la société. C'est une façon de répartir les responsabilités, par exemple, où les personnes blanches vont être plus validées et les personnes noires ou arabes perçues comme autres vont être considérées un peu moins aptes, moins légitimes pour assumer ce genre de poste. C'est ça en fait la race. Donc c'est bien plus vaste en fait que la question ethnique et ça va bien au-delà de la violence.
Puisque rappelons-le, la notion de race pour l'homme n'a pas de fondement scientifique. C'est important de le dire aussi.
Bien sûr, aucun fondement scientifique et en plus c'est pas un état, c'est quelque chose qui est construit et qui évolue.
Sabrina Cassa, Mediapart est un média qui a une approche aussi décoloniale de la France. Et ça doit être un petit peu lié avec votre nouveau poste de responsable aux questions raciales de Mediapart. Expliquez-nous quel va être votre regard là-dessus aussi.
En fait, la question raciale est le produit d'une histoire. Donc, on a une histoire qui est liée à l'esclavage, qui est liée à la colonisation, et donc qui a façonné le monde d'une certaine façon, qui a façonné notre vocabulaire d'une certaine façon, et qui a attribué, en fait, des positions dominantes et dominées à d'autres. Donc, j'ai envie de dire, le lien est assez direct. En fait, la race est le produit du colonial.
En France, les statistiques ethniques sont quasi inexistantes, mais justement, vous le disiez dans votre propos, il y a des faits sociaux qui montrent que les origines, eh bien, certaines origines sont représentées dans certains quartiers, dans certaines situations. Mais comment composez-vous avec cela dans votre approche éditoriale, justement, face à cette absence de statistiques presque spécifique à la France, qu'on ne retrouve pas toujours dans d'autres pays? Comment composez-vous avec ça, justement? Vous vous intéressez à ce qui est visible?
On s'intéresse à ce qui est visible, on demande aux gens la façon dont ils s'identifient, ça permet aussi d'avancer sur ces questions-là. En effet, on est limité par l'absence de statistiques ethno-raciales pour avoir en fait des photographies plus précises. Après, il y a voilà des chercheurs quand même qui travaillent sur ces questions-là, qui peuvent parfois avoir des autorisations pour faire des études plus précises. Et par rapport au monitoring qu'on compte mettre en place pour savoir un peu où on en est au niveau de notre production, la façon dont on en fait positionne les personnes selon leur perception raciale. En fait, on fait comme on compte faire comme l'ARCOM ou comme le collectif 50-50 pour le cinéma. Et en fait, c'est par rapport à des perceptions. C'est la façon dont les gens sont perçus. Est-ce qu'ils sont perçus comme des personnes blanches ou noir, ou asiatique, ou arabe.
L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication et des médias, c'est le régulateur des médias audiovisuels en France.
Voilà, et qui, depuis 2008, fait un baromètre annuel pour mesurer, en fait, la représentativité des personnes à l'image, en fait.
Il y a des faits politiques et dans les déclarations politiques de certains responsables de droite ou d'extrême droite, on entend ces questions et ces réflexions sur des questions raciales. C'est... de la part de Mediapart, un positionnement politique aussi que de faire le choix d'utiliser la notion de question raciale, déjà par l'intitulé de votre poste.
Oui, indirectement. Après, c'est pas une volonté politique. On n'est pas, c'est pas notre registre. Mais en fait, c'est parce que c'est plus précis déjà comme terme.
Après, il faut nommer les choses, être précis. Ça passe par l'utiliser et ne pas le cacher.
Voilà, et puis les autres mots le sont moins, en fait. Donc la question raciale permet, en fait, de s'intéresser à la façon dont la race s'applique dans la société. Et si on parle que de couleur, ça ne suffit pas, en fait. Si on parle que d'origine, ça ne suffit pas. Donc voilà, ensuite, bien entendu... Comme tout le monde, on s'inscrit dans un champ politique. Il y a une bataille culturelle très forte aujourd'hui. Et oui, quelque part, indirectement, on se positionne, bien entendu.
Sabrina Cassa, donc c'est le rôle d'un média comme Mediapart d'être à l'avant-garde aussi sur le questionnement du traitement des questions raciales en France dans les médias.
Bah, nous, on considère, oui, qu'on souhaite être à l'avant-garde. On n'est pas les seuls, heureusement. Mais oui, c'est important de visibiliser ce genre de questions, parce qu'en fait, c'est dans l'ombre et dans le flou que le racisme prospère.
Vous n'êtes pas les premiers médias à créer un poste de responsable aux questions raciales. Avant vous, il y a eu l'AFP, mais aussi le New York Times, qui a un poste de Race Related Editor. Qu'avez-vous capté de ces postes existants et que vous avez souhaité bien dupliquer chez vous d'une certaine façon? En quoi ces intitulés et ces démarches vous ont-elles inspiré?
Alors l'AFP, c'est la personne est responsable à la diversité.
Et, donc c'est plus large pour le coup.
Ouais, diversité et genre. Donc il parle pas de race. Bah, là où ça nous a inspiré, c'est que qu'un média aussi important prenne conscience et qu'il veuille travailler sur le contenu et sur le process, en fait, de la production éditoriale. Ben bien sûr, c'est rassurant et ça nous a inspiré. Je connais la responsable, Jessica Lopez, avec qui on discute. Donc c'est aussi important qu'il y ait un pool comme ça de journalistes qui se posent un peu les mêmes questions. Reuters, je ne la connais pas encore, mais il y a aussi une personne qui est responsable de ces questions-là. Et quant au New York Times, ben moi, ça fait plusieurs années que je suis leur newsletter, Race Related. C'est vrai qu'aux États-Unis, on parle beaucoup plus facilement, beaucoup plus franchement de ces questions-là. Et la newsletter, elle est excellente parce que elle permet d'aborder la question raciale en profondeur et de manière historique. Et donc, ils mettent en scène toute leur production éditoriale sur ces questions-là. Et voilà, c'est très intéressant.
Et ça vous inspire? Vous auriez envie d'un petit peu de faire la même chose à Mediapart?
La même chose, non, parce qu'on va le faire à notre sauce. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on aimerait faire.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est la journaliste Sabrina Cassa, qui depuis début septembre 2024 est responsable éditoriale aux questions raciales. Sabrina, vous avez dans un billet sur les blogs de Mediapart annoncé votre démarche, le pourquoi du comment vous aviez décidé de créer ce poste au sein de Mediapart.fr, et vous avez annoncé deux premiers chantiers. Le premier, ce sont les mots, la bataille, même bataille, vous le mettez entre guillemets, la bataille des mots. Vous êtes éditrice, j'imagine que ça vous tient à cœur, cette notion-là de bien nommer les choses.
Ben absolument, en fait, c'est notre seul outil. Puis je suis autrice par ailleurs, donc oui, j'aime les mots, j'aime qu'on les triture, qu'on soit pas soumis, qu'on expérimente, parce que les mots c'est une matière et
C'est
une matière vivante, voilà.
Et vous avez prévu, vous travaillez actuellement à un glossaire et un guide des bonnes pratiques. Où en êtes-vous dans cette démarche?
Alors, comme vous l'avez noté, je viens juste de démarrer ce poste et en fait, on est vraiment au tout début. Donc, on a déjà eu, j'ai déjà eu des allers-retours. Alors, nous, on appelle ça le central d'édition chez nous. Par exemple, sur la question de est-ce qu'il faut dire afro-américain ou noir-américain. Donc voilà, on est en train de... On a travaillé, réfléchi sur le sens de ces mots-là. Mais le glossaire va se construire de manière très vivante, hein, selon les besoins, les usages, les difficultés qu'on rencontre au moment de l'édition. Et puis après, la forme que prendra notre glossaire, comment on va l'utiliser, ça, voilà, je suis au début du process et je compte le faire de manière participative avec mes collègues. Donc, je pourrais venir vous en parler dans quelques mois.
Et votre souhait serait que ce glossaire, ce guide des bonnes pratiques, soit public peut-être à l'issue de la démarche ? Par transparence vis-à-vis de vos lecteurs, par exemple.
Absolument. Généralement, nous, on est assez transparent et on aime bien partager parce que le Mediapart, c'est un journal, mais aussi c'est aussi un club avec des contributions extérieures et des commentaires. Donc, la place de nos lecteurs et de nos contributeurs font vraiment partie prenante de notre projet éditorial. Donc, oui, et puis on aime aussi être chahuté. L'idée du participatif, c'est un peu aussi d'enlever les journalistes de leur piédestal. Donc voilà, comme je vous disais, les mots, c'est quelque chose qu'on travaille comme des artisans. On fait des choix, c'est jamais parfait, mais on fait des choix. Et la discussion, oui, on est toujours prêt à la discussion et au partage.
Oui, parce que les mots peuvent être parfois l'objet d'une bataille idéologique sur leur signification. Deuxième chantier dont vous avez déjà annoncé la couleur, c'est l'évaluation des biais dans votre traitement éditorial. Et là, on est vraiment dans l'hyper-concret, le choix des interlocuteurs et des interlocutrices, les sujets, les angles, le fait que les journalistes, parfois, ont des lunettes, ont un prisme de lecture, et c'est à ça que vous voulez vous atteler dans les semaines et mois qui viennent aussi, pour essayer de peut-être de faire bouger les lignes, changer les choses, ou en tout cas, mieux prendre conscience d'où vous parlez.
Voilà, donc de Mediapart, on part pas de rien. Hein. Et puis, de nombreux collègues sont très conscients de ça, mais c'est vrai que c'est un travail quotidien qui se fait déjà tous les jours en conférence de rédaction quand on parle des sujets. L'idée de proposer de nouveaux témoins, de nouvelles interlocutrices, de nouveaux angles, ça c'est et le fait d'avoir une personne, savoir moi, qui est là autour de la table, et ben en fait mes collègues y pensent, moi je leur suggère des choses, les deux directrices éditoriales aussi savent qu'elles peuvent s'appuyer sur moi si à un moment il faut chercher des interlocuteurs ou s'il faut réfléchir à des formulations. C'est ça mon rôle.
Là où vous dites déjà depuis quelques années, il faudrait peut-être qu'il y ait davantage de femmes dans nos colonnes, maintenant vous dites aussi qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure représentativité de la diversité de la société française dans notre traitement éditorial au sens large, c'est ça ?
Oui, c'est déjà avoir plus de personnes racisées. Donner la parole à plus de personnes racisées, mais c'est aussi certains angles. En fait, Maxime Serville parle de sources tierces, c'est-à-dire les voix institutionnelles, les contre-pouvoirs majoritaires, mais il y a aussi toutes ces voix tierces qui viennent de personnalités, d'associations, de collectifs, et ça, il y a des sujets qui permettent de leur donner la parole et d'autres sujets qui permettent pas de leur donner la parole. Donc c'est aussi avoir conscience aussi que selon l'angle qu'on choisit, on va donner la parole à certaines personnes ou on va en invisibiliser d'autres.
Y a-t-il peut-être aussi une volonté de faire attention à ne pas avoir les biais inverses, c'est-à-dire que si vous voulez parler du 13e arrondissement de Paris, de ne pas donner la parole qu'à des Asiatiques, par exemple, mais ne pas les oublier dans le traitement. N'avez-vous pas la crainte aussi d'avoir une approche peut-être de discrimination positive parfois, ce que certains pourraient vous reprocher ?
De toute façon, donner la parole à quelqu'un, c'est pas le brosser dans le sens du poil. Hein. Parfois, c'est pour le mettre, montrer les limites de son approche, de son analyse. C'est pas donner la parole, c'est pas faire la communication. Et je pense que un des biais aussi, c'est de pas assigner certaines personnes à certains sujets. Voilà. Et l'exemple, je pense que les personnes asiatiques en France, on leur donne pas assez la parole, et il faudrait pas leur donner la parole que quand on s'intéresse au 13e arrondissement de Paris. Voilà.
Sabrina Cassa, responsable éditoriale aux questions raciales à Mediapart. Lénaïque Bredoux, une de vos collègues, qui est maintenant directrice éditoriale de Mediapart, a été nommée en 2020 responsable éditoriale aux questions de genre. Y a-t-il des similitudes entre vos deux postes et vos deux approches ?
Ah bien sûr, oui, on s'est inspiré de ce premier poste. La similitude, c'est qu'en fait, on parle de minorité. Alors, les femmes sont des minorités politiques, hein, comme on va dire, les personnes racisées sont des minorités politiques avant tout. Donc, et puis, donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que l'idée, en fait, d'avoir une vigie. Donc d'avoir une vigilance, d'essayer d'analyser, de prendre un peu aussi de la distance par rapport à notre contenu pour essayer de se donner des objectifs, de les réorienter, d'appuyer dans une certaine direction. Et donc voilà, c'est aussi ça la source d'inspiration.
Pour la représentation des femmes, j'ai envie de dire, avoir des objectifs chiffrés, c'est quelque chose. Par contre, sur les questions raciales, ça doit être un petit peu plus compliqué, j'imagine, non ?
Alors, pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est que on va commencer par faire le monitoring pour avoir un peu la big picture. Et à partir de là, voir quels critères on se donne, quel objectif on se donne. L'idée, c'est pas de voilà, martyriser mes collègues ou les éditeurs pour les obliger à remplir des cases, mais déjà prendre conscience. Voilà, de l'importance de voilà de la place qu'on donne aux personnes racisées, la façon dont on les met en image, donc repérer certains biais, se donner des objectifs. Bon, et puis une fois qu'on s'est donné des objectifs, il n'y a pas de punition si on les atteint pas. C'est plutôt une façon de réfléchir à notre contenu et la façon et essayer de l'améliorer.
Et vous avez un processus de formation des équipes aussi éditoriales prévu sur ces questions-là, ou peut-être qui est déjà engagé ?
Oui. En fait, il y a une sociologue qui s'appelle Solène Brun qui m'a proposé des formations chez nous. Donc là, c'est la deuxième session pour mieux comprendre en fait ces questions raciales le traitement éditorial que nous, on produit sur ces questions-là. Ouais.
Depuis votre prise de poste, Sabrina Cassa, début septembre, avez-vous déjà gagné des matchs sur votre nouvelle responsabilité en interne ?
Bon, c'est pas la bataille. Mais en tout cas, on en parle plus en conférence de rédaction. Et je me permets aussi davantage... En fait, de pointer les angles morts quand on parle d'un sujet ou de proposer des interlocutrices ou des interlocuteurs. Et ça, déjà, c'est une avancée.
Vous êtes sur RFI, Sabrina Cassa. Avez-vous une recommandation aux journalistes qui nous écoutent de tout le monde francophone et qui souhaiteraient revoir leurs pratiques éditoriales sur les questions raciales ? Par quoi doivent-ils commencer ?
Alors, c'est vaste, le monde entier. Je pense que les mots, c'est important. Parce que sans nous en rendre compte, on, avec nos expressions, on a une certaine représentation du monde. Par exemple, blanc et noir. Le blanc, c'est la carte blanche. C'est le blanchiment de l'argent. C'est le blanchiment de l'accusé. C'est comme c'est le bon pain, c'est le pain blanc. Voilà. Le noir, c'est les caisses noires. C'est le travail au noir. C'est les humeurs noires. Enfin, et c'est le trou noir. Enfin, sans s'en rendre compte, en fait, on véhicule certaines représentations, en fait, où le blanc va être positif et le noir va être négatif. Donc, juste parfois. Prendre un petit peu de distance, parce que c'est vrai que c'est dans notre langage courant, et se dire, tiens, est-ce que ça, je pourrais l'écrire autrement, plutôt que d'attribuer, en fait, des valeurs positives, négatives par rapport à ces deux couleurs-là, par exemple. Ça peut être une chose. Et aussi la façon dont on décrit les gens. C'est vrai que déjà pour les hommes et les femmes, on s'en était rendu compte, parce qu'on a déjà fait des évaluations sur notre contenu, que les hommes, les verbes qu'on utilisait pour parler des hommes étaient beaucoup plus assertifs. Ils décidaient, ils prenaient la parole, ils entreprenaient, alors que les femmes étaient beaucoup plus dans le registre émotionnel. Et parfois elles chuchotent, elles inspirent. Et là aussi, en fait, c'est une répartition des rôles où on assigne en fait une position active à certains, une position passive à l'autre. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que les journalistes devraient tous avoir en tête. Et puis après, c'est les rôles. Voilà, donner une position d'autorité de fait à des hommes, les mettre en scène en cravate, dominant au centre de l'image et représenter les racisés en position de victime ou en donnant l'impression qu'ils s'excusent d'être là. Eh bien ça aussi, en fait, malgré nous, en fait, on reproduit un certain schéma.
Sabrina Cassage, j'ai aussi une question sur les abonnés de Mediapart. On sait que vous avez plus de 200 000 abonnés payants à Mediapart. Avez-vous un regard sur les origines sociales, les origines ethniques de vos lecteurs? Et avez-vous aussi comme ambition, en mieux représentant la société française, de diversifier peut-être ses abonnés, ce lectorat, de la même façon que vous avez voulu le féminiser davantage en créant le poste de Lénaïque Bredou, responsable aux questions de genre?
Alors, je ne pourrais pas vraiment vous répondre sur ces questions-là, parce que, en fait, bien sûr, le service marketing est très important chez nous et fait partie prenante, en fait, de notre projet, mais, en fait, on ne réfléchit pas vraiment aux questions éditoriales par rapport à leur objectif marketing. Après, bien sûr, on sera très content d'avoir beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de personnes racisées. Je peux vous parler peut-être un peu plus de nos contributeurs, parce que ça, c'est nos contributrices, parce que ça, je les lis et je les édite.
Vous êtes responsable du club de Mediapart.
Voilà, co-responsable. Et il y a 2-3 ans, j'avais fait des statistiques aussi, pour pas raciales, mais sur hommes-femmes. Et j'avais constaté que, on avait à peu près 30% en fait de contributrices. C'est à la louche parce qu'on a beaucoup de gens qui sont sous pseudo et on peut pas vraiment savoir. Et je suis très contente en fait quand il y a aussi des blogueurs et des blogueuses qui sont racisés, qui racontent à partir de leur point de vue, avec donc une autre perspective historique, avec d'autres perspectives sociales. Et ça, c'est aussi toute la richesse du club. Et j'espère bien qu'il y en aura de plus en plus.
Sabrina Cassane, nous avons donc ensemble listé les deux premiers chantiers dans votre nouveau rôle de responsable éditorial aux questions raciales à Mediapart. Les mots tout d'abord, puis l'évaluation des biais. Le premier bilan pour vous est prévu quand?
Dans un an. Le temps de travailler, je pense qu'un an c'est une bonne date.
Eh bien écoutez, je pense qu'on peut se donner rendez-vous.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Sabrina Cassa, journaliste, éditrice et responsable éditoriale aux questions raciales à Mediapart. L'adresse de Mediapart n'a pas changé, c'est mediapart.fr. À bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de cet atelier des médias que vous pouvez, comme chaque semaine, écouter dans une version longue en podcast. Merci à Simon De Creuse pour la réalisation. Si vous voulez nous parler, adressez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.